Radio Okapi. Le journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Des stations-service évoquent la pénurie pour justifier le long fil de véhicules observés hier. Mais pour Sep Congo, on ne peut pas parler rupture de stock à l'heure qu'il est. C'est juste un problème logistique face à l'augmentation de la demande qui est en train d'être résolue. 32 creuseurs artisanaux enlevés le lundi par des miliciens de la Codeco. C'était dans le site minier de Blanquette en Ituri. Le président de la communauté Ngali dénonce cet incident qui, selon lui, sonne comme un défi à l'état de siège. Enfin, le plan de développement de la province du Kasaï passe par la réhabilitation des routes et dessertes agricoles. C'est ce qu'a affirmé Dieudonné Piémé, gouverneur de province. Il est notre invité dans cette édition. Il nous fera le point sur sa province. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour. À Kinshasa, de longues files de véhicules ont été observées hier mardi dans des stations-service. Plusieurs d'entre elles n'ont pas vendu ce produit, évoquant une pénurie. Il n'en est rien, affirme Sep Congo, la société de stockage qui ravitaille ces stations. Dans un communiqué publié samedi dernier, en effet, Sep Congo affirme qu'elle dispose d'un stock suffisant de carburant, mais qu'elle connaît un problème logistique face à l'augmentation de la demande. On écoute les explications d'Emery Bopé, président du groupement des sociétés pétrolières privées et membre du comité de la structure des prix, qui confirme qu'on ne peut pas parler de rupture de stock en carburant à l'heure qu'il est. Il est joué au téléphone par Merveille Bofetola.
Pour ce qui est de la distribution, il n'y a aucun problème. Nous avons suffisamment de produits. Au début de l'année, toutes les raffineries sont presque aux entretiens, ils sont en train de nettoyer pour permettre à ce que la rentabilité augmente. Maintenant, lorsque la demande devient forte, même les services doivent aussi avoir des difficultés pour satisfaire au même moment tout le monde. Et vous avez dit, le 29 janvier, Sep Congo, qui est la société de logistique, a bien indiqué qu'il n'y a aucun problème de pénurie dans la ville, ni dans la zone ouest, ni encore moins dans la zone sud ou est. C'est juste un problème de la logistique, mais ils se déploient, ils sont en train de travailler nuit à main même pour pouvoir approvisionner suffisamment les stations-service. Donc, que la population ne se décourage pas et comprenne que les problèmes est déjà pris en charge. Je crois qu'avec de nouvelles dispositions, la population n'aura jamais de soucis par rapport à la distribution des produits pétroliers.
Au Nord Kivu, hier mardi, au deuxième jour de l'opération Gomaville sans taxi, lancée par le transporteur, des conséquences socio-économiques se sont fait sentir sur la vie de la population. C'est ce qu'ont affirmé les acteurs de la société civile, ainsi que de mouvements citoyens. Dans ses bras de fer avec l'autorité locale, le maire de la ville de Goma s'est dit prêt à dialoguer avec les taximen en vue de décanter la situation. Reportage, Gabriel Ouaméa.
Sur les aires des grands arrêts des taxibus situés de part et d'autre de la grande artère qui sépare les deux communes de la ville, aucun taxibus n'a été visible encore ce mardi matin. Tous les voyageurs, fonctionnaires, élèves, étudiants, marchands qui attendaient désespérément les transports ont dû rebrousser chemin pour les uns, alors que les plus courageux se sont hissés dans des camions bennes ou des engins communément appelés trois pneus partant dans leur direction. Le motard qui reste seul le maître des terrains ont doublé, voire triplé les prix de la course par moto, comme le témoigne cet habitant que nous avons joint depuis l'arrêt communément appelé Terminus.
Vous allez constater que la plupart des élèves n'est pas plus à l'école. Les étudiants restent à la maison. La plupart des mamans qui se frappent de leurs activités habillées, tellement chose jusqu'en ville. Nous payons 1000 francs à 1500. Mais à cette heure, c'est 5000 francs.
Contacté, le maire de Goma s'est dit ouvert au dialogue avec les propriétaires des taxis pour qu'un compromis soit rapidement trouvé. Le commissaire supérieur principal, Kabeya Makosa François, affirme qu'il n'y est pour rien dans cette décision. Il dit appliquer la loi en la matière, à l'instar d'autres provinces du pays. Goma, Gabriel Ouaméa, Radio Okapi.
Et puis nous poursuivons ce matin notre série de reportages sur le dossier fonds minier de génération future en RDC Fomine. Chaque année, cette structure reçoit 10% de la redevance minière. Selon les estimations de l'ONG Energy, cela représenterait 30 à 105 millions de dollars américains. À quoi doit servir cet argent? Élément de réponse avec vous, Sita Bachizi Nabizana.
Selon le décret de 2019 sur le FOMIN, outre le budget d'exploitation, cet argent est destiné notamment à financer des projets de recherche minière réalisés par le Service national géologique. Mais il peut aussi être placé en vue de générer des intérêts au profit du FOMIN. Mais les organisations des jeunes actifs dans le secteur minier et le gouvernement congolais ne partagent pas le même avis. Maître Adrien Moigné-Mali, coordonnateur de l'ONG LITRAZ, Ligue pour la transparence dans le secteur extractif.
Si nous définissons les générations futures comme les générations qui viendront après, on ne peut jamais arriver à un moment où on se dit que nous sommes dans les générations futures, parce que tous les jours, il y a les enfants qui naissent et il y a les gens qui meurent. Donc il faut qu'on commence à un certain moment et à un certain niveau de prendre les générations actuelles marginalisées dans les répartitions de la redevance minière comme les générations futures. Voilà pourquoi nous voyons premièrement sur le plan éducatif. Il faut qu'il y ait une bourse d'études qui va prendre en charge les enfants élites. Le deuxième plan, il faut que le FOMIN puisse accompagner les jeunes dans la diversification de l'économie, mais aussi de l'autonomisation des jeunes.
Mais d'autres experts pensent que s'attarder sur la notion des générations futures ne sert absolument à rien. Le plus important est de bien investir l'argent que reçoit le FOMIN pour récolter des dividendes profitables à tous. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Autre nouvelle dans la province du Maniema, le ministre provincial de la Santé et représentant du gouvernement a procédé au lancement hier mardi à Kindu du programme Agriculture durable et meilleure protection des forêts tropicales en RDC. Ce programme de 5 ans porte sur l'agriculture durable et la sécurisation des forêts communautaires des peuples autochtones et des communautés riveraines des parcs de la Lomami au Maniema et de Kahuzi-Biega au sud Kivu. Selon l'abbé Stanislas Abeli-Milabio, coordonnateur de Caritas dans le diocèse de Kindu, ce projet qui a bénéficié du financement de Caritas Norvège sera exécuté des conseillers avec les structures des deux églises catholiques et protestantes. Il explique le bien fondé de ce programme au micro de Florence Kizalunga.
Ce projet vise d'un côté à sécuriser les forêts communautaires, accompagner les communautés à la sécurisation de leurs forêts pour d'autres usages, et de l'autre côté offrir ou aider les communautés à avoir accès aux moyens de subsistance, c'est-à-dire à accroître leurs revenus, à subvenir et répondre à leurs besoins sociaux et vitaux de chaque jour à travers la production qu'ils auront dans l'agriculture. L'avantage pour ce projet, c'est que c'est communauté qui est envahie non seulement par le parc, mais aussi par les concessionnaires, va aider ces communautés à protéger leurs forêts envahies par les concessionnaires. Donc, ce projet va aider ces communautés à sécuriser pour longtemps leurs terres par l'obtention de titres juridiques de leurs concessions afin de l'exploiter en toute quiétude et pour toute fin utile et selon leurs besoins dans leur communauté.
En Ituri, 32 creuseurs artisanaux ont été enlevés lundi dernier par des miliciens de la Codeco dans le site minier de Blanquette. Les assaillants les ont surpris en pleine activité. Selon des sources locales, deux d'entre eux ont réussi à s'échapper. Le président de la communauté Nyali dénonce cet incident qui, selon lui, sonne comme un défi à l'état de siège pendant lequel ces miliciens sont appelés à déposer les armes. On écoute Vital Tungulu.
Les exploitants miniers artisanaux ont été surpris par l'incursion de Codeco vers 4h du matin. Nous condamnons avec la dernière énergie cet activisme. Ces miliciens, comme ils sont endoctrinés, ils n'écoutent personne. Et nous avons plusieurs initiatives de Kinshasa pour sensibiliser ces gens-là. Il y a la task force, il y a même PDDRC qui très récemment a lancé des messages pour que ces gens emboîtent ou bien empruntent cette voie de pacification, mais il n'y a rien. Au niveau des autorités, tout ce que nous sommes en train de leur demander, c'est de frapper ces gens-là. Dès qu'ils auront senti la puissance du feu, ils pourront peut-être se rendre. Sinon, on va continuer à vivre un cycle infernal de la violence, de kidnapping, d'esclavage. Je vous informe qu'il y a plusieurs autres otages, femmes qui sont vers ces côtés-là, qui sont utilisées comme des objets sexuels ou bien esclavage, esclaves.
Pas encore de réaction enregistrée du côté des FARDC à ce sujet. Notez que 13 groupements sur les 15 que compte ce secteur sont menacés par ce rebelle. et on parle culture dans cette édition du journal. À partir de ce vendredi 4 jusqu'au dimanche 6 février, la ville de Goma va vibrer sous les rythmes de la 8e édition du festival pour la paix dans la région des Grands Lacs africains, autrement appelé Festival Amani. Selon les organisateurs, celle-ci intervient après une année d'absence à la suite des restrictions dues à la Covid-19. Depuis Goma, Bernard Nyangi revient sur les objectifs et principales ambitions de cette manifestation culturelle.
Cette année, le festival Amani de Goma célèbre l'inscription par l'UNESCO de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est en tout cas ce que l'on peut lire sur la page d'accueil du site du festival Amani. Les organisateurs précisent qu'au programme, l'édition 2022 accueille les artistes musiciens comme Roga Roga et son extra musica Zangul de Brazzaville, Asley de la Tanzanie, Robinho Mundibu Mohombi, en plus d'un Goma ambassadeur de la ville touristique de Goma et le groupe SLM de Beni. Rappelons que la première édition du festival Amani remonte en fin août 2013. La 7e édition de 2020 avait accueilli plus de 34 500 festivaliers. On pouvait y trouver 65 stands d'ONG et d'associations partenaires encadrés par au moins 810 bénévoles. Le but pour cet événement est de rassembler par la culture des personnes de plusieurs horizons et ainsi offrir un espace de fête loin des problèmes quotidiens et des séquelles de la guerre. C'est aussi une occasion de redorer l'image de Goma de l'Est de la RDC et de la région des Grands Lacs de manière générale et montrer au monde la volonté qu'ont les jeunes de la région de construire un avenir meilleur et d'user de leurs talents pour y arriver. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit, direction Kasaï. Tous les gouverneurs des provinces de l'espace Kasaï sont depuis hier mardi à Kananga. Ils participent à un atelier régional de réflexion sur les violences basées sur le genre dans cette partie du pays. Il a été lancé hier par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Appuyé par le HCR et l'UNFPA, ces travaux de 3 jours sont organisés dans le but de renforcer la prévention contre les violences basées sur le genre dans la région ainsi que la réponse à y apporter. François Kadima nous en parle.
Ces travaux sont initiés face à l'ampleur des cas de VBG dans l'espace Kasaï à la suite des événements de Kamuna Sapo. Une situation qui a eu comme conséquence les violences sexuelles sur les femmes et filles et les viols. On note aussi l'existence de certaines pratiques traditionnelles avilissantes à l'égard de la femme et de la jeune fille. Préoccupé par la promotion de droits et autonomisation de la femme, le ACER et d'autres partenaires se sont engagés à appuyer les actions de lutte contre les VBG dans la région, a indiqué la représentante de cette agence en RDC, Awalise.
Le ACER agit à travers du sous-cluster VBG pour apporter sa modeste contribution dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de Kasaï.
Pour la ministre nationale du genre, famille et enfants, son gouvernement qui veut un monde égalitaire voudrait voir tous les acteurs être engagés pour mettre fin au VBG, surtout dans l'espace Kasaï. Dizaine Daya.
Je vous invite donc au travail afin de matérialiser le rêve d'une société plus égalitaire et plus engagée au développement.
Les organisateurs de cet atelier voudrait voir les décideurs politiques de l'espace Kasaï présents à ses assises s'engager à voter comme pour le Kasaï central et les dit bannissant les violences et les pratiques avilissantes à l'égard de la femme. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
On revient ici à Kinshasa. Le président de la République a dévoilé hier mardi la statue d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, son père et leader historique de l'UDPS. C'était à l'occasion de la commémoration du 5e anniversaire de sa mort le 1er février. La cérémonie organisée par la Maison civile du chef de l'État a eu lieu au mausolée érigé en sa mémoire dans la commune de Lancelé. Mais qu'est-ce que l'homme politique congolais et la population en général retient d'Étienne Tshisekedi? La constance notamment, répond Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et analyste politique. Il a été joint au téléphone par Babel Pongo-Massimango.
Je pense que la première des choses serait la constance, c'est-à-dire lorsque l'on est engagé dans un parti politique, de rester constant par rapport à ces deux engagements. Quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment une constance au niveau des engagements de la classe politique congolaise, ce qui fait que tout devient volatile et ça devient difficile de pouvoir avoir une constance et plus d'avoir une vision claire par rapport à un projet politique. Lorsqu'on regarde la constance de Étienne Tshisekedi, on la compare avec les politiciens d'aujourd'hui, vous en conviendrez, il n'y a vraiment pas comparaison. Hier, vous avez été FCC et aujourd'hui, vous êtes Union Sacrée et c'est tout à fait normal pour la classe politique politique actuelle. Alors que lorsque l'on regarde le parcours de Etienne Tshisekedi, on n'a pas effectivement cette tergiversation. Cette constance-là, à mon avis, est une stabilité et qui peut permettre justement de construire un État véritablement démocratique. Quand on regarde effectivement la base, il y a vraiment pas d'idéologie, le seul critère qui compte, c'est de pouvoir, entre guillemets, participer au pouvoir, pour pouvoir en récolter des dividendes, pour pouvoir les distribuer, non pas pour l'État, mais dans un cercle qu'on appelle la tribu, le clan.
Actualité internationale.
Au Guinée-Bissau, la situation est sous contrôle, a déclaré le président Ambalo mardi soir à la presse. La situation était très confuse ce mardi 1er février à Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays. Des détonations qui ont provoqué un début de panique. La CDAO a condamné une tentative de coup d'État. Selon l'agence de presse Loussa, c'est vers 17h20 heure locale que les militaires sont entrés dans le palais du gouvernement et que les membres du gouvernement ont été libérés.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le gouverneur du Kassai. Dieudonné Piémé revient sur le plan de développement de sa province pour 2022 qui passe par la réhabilitation des routes de desserte agricole. Il nous parle également des solutions envisagées face à la cherté du courant électrique à Tshikapa, le manque d'eau dans quelques communes de la ville depuis l'effondrement du pont Kassai. François Kadima l'a rencontré à Tshikapa.
Monsieur Dédoné Piémé, bonjour.
Bonjour.
Nous avons commencé l'année. Qu'est-ce que cette population peut attendre de vous?
Il faut savoir que lorsque je suis arrivé aux affaires il y a quelques années, il y a 2 ans et demi à peu près, la principale action que nous avons mis en valeur pour accompagner le développement, c'était l'amélioration de dessertes en denrées agricoles. Pour nous, si la population souffrait, c'était parce que la distribution entre le nord et le sud de la province n'était pas assurée, étant donné que les routes étaient en très mauvais état. C'est comme ça que nous avons conçu un projet que nous avons appelé Corridor Nord, celui qui consistait à ouvrir les routes de desserte agricole du nord vers le sud. Ce projet mettait en valeur pratiquement la réhabilitation des routes de desserte agricole et devrait nous permettre de mobiliser la moitié des recettes sur 5 ans. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'acquérir environ 4 ou 5 engins qui devraient nous permettre de réhabiliter ces routes à partir des Ilebo jusqu'à Tshikapa et éventuellement ouvrir la même route à partir de Tshikapa vers Kandjaji du côté de l'Angola. Malheureusement, ça va faire 1 année et demie que nous avons acheté ces engins. Ces engins souffrent du défaut de retrait tout simplement parce que la province est confrontée au problème de dédouanement de ces engins.
D'argent?
Évidemment, c'est un manque d'argent. Nous n'avons pas l'argent pour dédouaner ces engins alors que ce sont des engins éligibles à une exonération. Nous n'avons réussi à sortir qu'un seul engin sur les 4. Ceci nous a mis en difficulté. Heureusement que le passage du président de la République a fait naître une lueur d'espoir parce qu'il a instruit ses services de manière à regarder de quelle manière, au niveau de la douane, nous pouvons récupérer ces engins sur fonds propres.
C'est un projet majeur pour vous qui doit se réaliser cette année.
Oui, pour nous, c'est un projet qui doit absolument commencer cette année. Nous devons réhabiliter environ 1500 km de route et nous espérons le faire en moins de 6 mois.
La ville de Tshikapa est éclairée, mais la population estime que c'est un courant qui est plus cher. Alors comment vous percevez cette situation et des solutions à y apporter?
Il s'agit bien d'un investissement privé, il ne s'agissait pas d'un investissement public, et que cet investissement privé était soumis à des règles, notamment qui devraient permettre le remboursement de l'investissement dans un délai et qui se rapporte à l'investissement ou plutôt à la concession. À la lumière de ceci, l'investisseur avec le gouvernement central était convenu à progresser dans la desserte. Plus on progresse dans la desserte, moins on paye. Et c'est ce principe-là qui est d'application qui fait que aujourd'hui le coût est encore élevé. Il s'agit d'une société appelée Électricité du Congo, EDC en sigle. Au passage du président de la République, la question a été soulevée, mais en fait, le problème qui se pose ici, c'est pas forcément le coût de la consommation directe. C'est plutôt un coût supplémentaire à la consommation qui est imposé aux consommateurs et qu'on affiche comme étant les frais d'entretien de compteurs. Au départ, on avait appelé ça frais de location de compteurs. Par la suite, c'est devenu frais d'entretien de compteurs. Mais en réalité, ce sont des frais fixes. L'investisseur impose aux consommateurs pour arriver à accélérer ou plutôt à réduire le délai de remboursement du crédit de l'investissement. En soulevant la question avec le président de la République, et le président de la République a soulevé quelques pistes qui nécessitent d'être approfondies. Pour l'instant, je préfère ne pas les évoquer parce que ça nécessite encore une étude. Des pistes très intéressantes qui partent notamment de la subvention jusqu'à pratiquement à des allègements de toutes sortes. Mais ce sont des questions qui doivent être étudiées. C'est pour ça que j'ai reçu instruction du président de la République pour que, avec la société, nous puissions faire une analyse, une étude qui pourrait déboucher à une solution favorable à la banque.
Voilà, autre question, c'est par rapport à l'effondrement du pont. Déjà, la population qui habite l'autre rive à Kélé n'a pas de l'eau potable. Hein. Où il y a deux communes, il y a Mbumba et Mabondo. Comment vous pensez remédier à la question et pourquoi ça traîne?
Plus urgent, c'était d'abord résoudre la question de pont, étant donné qu'on change de support. La passerelle avait pour appui-support le pont. Aujourd'hui, on doit changer le support appui. La question est en train a été soulevée pour qu'on sache si on doit le faire traverser par le nouveau pont en construction, toujours sur la rivière Kassai, ou construire une passerelle isolée.
Monsieur Dieudonné Piémé, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.